Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Jackie Horto du collectif français de soutien à Moumia Abou Djamal. Bonjour Jackie.
Bonjour.
Moumia Abou Djamal, ce journaliste proche des Black Panthers dans les années 80, accusé en 1980 du meurtre d'un policier blanc. D'abord condamné à la peine capitale à laquelle il échappera, mais il est depuis et encore aujourd'hui emprisonné depuis maintenant plus de 38 ans. Et vous et votre collectif de soutien, Jackie Horto, vous tirez la sonnette d'alarme sur l'état de santé de Moumia Abou Djamal. Comment va-t-il aujourd'hui?
Bah écoutez, j'ai pas de nouvelles, je veux dire, à la journée près, mais sa situation, je pense, n'a pas pu s'améliorer hein, en termes de santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement préoccupés par ce que nous avons appris ces dernières semaines, c'est-à-dire la brutale dégradation de son état de santé et plus encore par le comportement tout à fait inhumain de l'administration pénitentiaire. Qui le laisse souffrir sans le moindre soin et à l'isolement de l'infirmerie de la prison, que je peux résumer de cette façon. Il a fait d'ailleurs un bref séjour à l'hôpital, il y a de ça une dizaine de jours, il est resté 4 jours à l'hôpital, je précise pieds et mains attachés à son lit. Ça montre quand même la brutalité du comportement des autorités et à cette occasion. Ce qui aggrave encore, si je puis dire, le diagnostic, c'est que sa positivité au Covid-19 a été diagnostiquée. Le bilan, il est absolument désastreux, hein, parce que je rappelle que 3-4 ans en arrière, il était atteint de l'hépatite C. Il avait fallu mener un long combat encore, à la fois de mobilisation et judiciaire. C'est d'ailleurs le seul procès à ce jour qu'il a gagné, puisque l'administration pénitentiaire avait été condamnée à lui donner le médicament qui lui permettait d'éradiquer l'hépatite dont il était atteint. Et donc, comme ce traitement est arrivé tardivement, il avait déjà des dégâts impressionnants du point de vue de ses organismes, ses organes vitaux. Et alors le bilan, si je puis dire, entre cette situation d'il y a 4 ans et la situation d'aujourd'hui avec le diagnostic du Covid-19, il est le suivant: insuffisance cardiaque, œdème au poumon. Les photos d'ailleurs qu'on a publiées sur notre site témoignent affreusement de l'extrême gravité de son état physique qui l'expose clairement maintenant à la mort. Alors nous, la situation dans laquelle on se trouve par rapport à ce diagnostic absolument, je veux dire, qui met Moumia en danger de mort, hein, à défaut du court terme, mais encore faut-il... On n'a pas tous les éléments d'appréciation ici même. En tout cas, l'opinion de son médecin personnel, c'est-à-dire c'était un médecin qui le suit depuis plusieurs années, mais qui reste discret, il n'a que des contacts téléphoniques avec Moumia, et sous surveillance à chaque fois, évidemment, de la prison, des autorités donc pénitentiaires. Mais ce médecin, donc, régulièrement l'appelle, et particulièrement encore plus dans la dernière période, où pour lui, la seule solution pour Mounia, du point de vue de sa santé, c'est sa libération immédiate et sans condition, pour qu'il puisse effectivement, si je puis dire, être mis en les mains d'une hospitalisation de nouvelles formules quand même, et normale, ce qui devrait être normal, pas seulement pour Mounia d'ailleurs, mais pour les prisonniers qui sont dans son état, à savoir d'avoir affaire au corps médical dans des conditions indépendantes et transparentes, et sous la surveillance de personnes qui ont sa confiance. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel, on va en parler, un appel vraiment à la mobilisation, si je puis dire, un plan hors sec à l'américaine, pour sortir Moumia de là où il est. Et le sortir de là, c'est de sortir de prison d'abord.
Effectivement, donc vous menez tout un combat pour sa libération. Vous invitez, par exemple, à interpeller les autorités politiques et pénitentiaires, notamment leur écrivant. Jackie Horto, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se mobiliser pour la libération de Moumia Abou Djamal?
La première urgence, effectivement, comme vous venez de le rappeler, c'est dans un premier temps, dès que nous avons une connaissance de cette situation, du diagnostic médical, il fallait lancer en urgence ce qu'ont fait d'ailleurs nos amis américains, soutient Mounia aux États-Unis, sur l'ensemble du territoire américain, c'est d'interpeller les autorités, le procureur, pour être plus clair, interpeller le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, d'interpeller le secrétaire d'État en charge de la pénitentiaire en Pennsylvanie, ainsi que le procureur de Philadelphie, qui, tous les trois, dans les compétences diverses qu'ils ont, et de traitement du dossier de l'affaire Mounia Abou Jamal, plus globalement, ils ont la compétence, effectivement, pour régler ce problème que nous souhaitons qu'il soit réglé en toute urgence pour respecter l'humain. Là, donc, c'est une urgence humanitaire à laquelle nous appelons. Nous appelons les autorités pour que Mounia, donc, soit libérée et puisse, encore une fois, avoir affaire, si je puis dire, sur ces questions de santé, à des conditions tout à fait normales en hospitalisation. Et ça, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une libération immédiate et sans condition de Mounia. Donc, l'interpellation, c'est la première chose qu'on peut faire. Nous avons mis sur notre site, si je puis dire, un texte modèle en anglais et en français qui permet, et par courriel, d'interpeller ces autorités. Ça a déjà payé, puisque l'hospitalisation qu'il a connue il y a quelques jours, là, qui a permis de savoir la vérité sur le Covid, Covid ou pas Covid, hélas, le Covid était bien là, positivement reconnu, diagnostiqué. C'est cette campagne d'interpellation qui a déjà permis cette première étape. Mais Mounia a fait le retour à la prison ensuite, là, dans des conditions absolument inacceptables, intolérables, puisqu'il n'a absolument aucun traitement. Mmh. Pour nous, c'est clair, la situation où les autorités laissent Mounia Abou Jamal aujourd'hui, c'est effectivement, d'une part, comment dire, c'est d'une part une situation à la fois qui s'apparente à une peine de mort déguisée. Hein, je rappelle que Mounia était condamné, il est sorti du cours de la mort, et aujourd'hui, en laissant les choses en l'état, c'est effectivement une peine de mort déguisée qui se dessine là, et dont l'objectif est effectivement de faire disparaître Mounia purement et simplement.
Hein. Oui, et on rappelle qu'il a été condamné à la perpétuité, après avoir échappé à la peine de mort.
Tout à fait, tout à fait. Il est resté, je rappelle, donc il a passé 40 ans en prison, bientôt, très bientôt. Il aura 67 ans le 24 avril, donc c'est 40 années passées dans le couloir de la mort. Il en est sorti seulement en 2011, donc ça fait 10 ans qu'il est sorti du couloir de la mort. Hein, mais avec un Mounia sorti du couloir de la mort, déjà, avec des soucis de santé qui progressivement ont fait en sorte que on n'a plus tout à fait le même Mounia, même si dans la tête c'est toujours le même. J'appelle tous ceux qui vous écouteront effectivement à intervenir en envoyant des messages aux autorités américaines pour faire pression sur elles afin qu'elles prennent la bonne décision concernant Mounia.
Et on rappelle que vous proposez une lettre type sur votre site mumiaboujamal.com, mumiaboujamal.com. On le rappellera également à la fin de cette interview, et avec donc tout le texte à envoyer et les adresses des autorités politiques et pénitentiaires.
La mobilisation internationale, elle pèse. Et ça permet de gagner des étapes importantes. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est pas de même nature, puisque là, c'est plus, je disais tout à l'heure, peine de mort déguisée. C'est effectivement, si Mounia n'est pas pris en charge sérieusement et dans des conditions différentes de celles d'aujourd'hui, pour pouvoir pousser les diagnostics, etc., au bout, et lui donner les traitements qu'il faut pour, à défaut, éradiquer tous les maux qu'il peut avoir et qui le font terriblement souffrir, il y a nécessité, en tout cas, que les conditions d'hospitalisation soient vues sur le long terme, et pour qu'elles soient vues sur le long terme, il faut que Mounia sorte effectivement de la prison et soit libéré pour raison humanitaire. C'est la basique, c'est ce que nous revendiquons auprès des autorités américaines. Nous projetons d'organiser, alors on va voir, parce que depuis les annonces faites hier soir concernant les toutes sortes de confinements et de contraintes qui s'ajoutent en région Île-de-France, là, avec d'autres régions françaises et d'autres départements. Mais en région Île-de-France, on risque d'avoir des difficultés. On avait prévu un grand rassemblement place de la Concorde à Paris le mercredi 7 avril. J'invite là aussi à Bordeaux à reprendre le chemin du combat de la mobilisation, et ça contribuera effectivement à aider Mounia à se sortir de la situation dans laquelle il est. Hein. Donc voilà. Alors on a envisagé aussi d'autres choses. qui sont, si je puis dire, un petit peu là, c'est de réactiver aussi l'engagement des 25 villes françaises, dont la capitale Paris, celles qui ont fait, ces municipalités, ont fait de Mounia leurs citoyens d'honneur, et afin qu'elles s'inscrivent aussi dans ces étapes de mobilisation et qu'elles aussi interpellent les autorités américaines. Hein. Et nous avons prévu aussi, je vous l'annonce un peu en première, là, nous avons contacté une vingtaine de personnalités, d'élus locaux et nationaux, d'artistes, de dirigeants d'associations de défense des droits de l'homme, pour effectivement proposer à la presse française effectivement une tribune libre dans laquelle ils s'engageraient dans ce combat à demander aux autorités américaines effectivement la libération de Mounia pour raison de santé, pour raison humanitaire.
Donc on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on est avec Jackie Horto du collectif français de soutien à Mumia Abou-Jamal qui alerte actuellement sur l'état de santé extrêmement détérioré de Mumia Abou-Jamal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu Jackie Horto, qui il était, quel était son combat et comment est-ce qu'il s'est retrouvé donc dans les prisons américaines?
Mounia a tout de suite été repéré dès sa jeunesse comme quelqu'un qui s'engageait contre toutes les formes de discrimination et particulièrement ceux qui en étaient le plus victimes, les Afro-Américains, et notamment dans sa ville natale, qui est Philadelphie, où on a là, dans cette ville, historiquement, l'une des plus fortes concentrations d'Afro-Américains. La ville de Philadelphie et sa banlieue aujourd'hui, c'est entre 35 et 40% de la population qui est d'origine afro, hein, d'origine donc des esclaves anciens, des esclaves qui aujourd'hui continuent de subir d'une autre façon des discriminations de toutes sortes, hein, en tout cas où le racisme est encore très fort, où les Afro-Américains sont les gens qui souffrent le plus socialement, économiquement. Et donc, Mumia était très jeune déjà un des leaders de combattre toutes ces formes de discrimination. Hein. Et aussi un homme très ouvert, parce que pour la discrimination touchait des pauvres qui sont blancs, et il n'y a jamais eu pour Mumia, c'était pas l'exclusivité de défendre la communauté afro-américaine. Ça concernait tous ceux qui souffrent dans cette Amérique adolescente qu'il a connue, mais qui s'est pas arrangé depuis, hein, puisque les conditions sont toujours à peu près les mêmes aujourd'hui et les discriminations de même sorte. Et aussi avec un ingrédient particulier concernant Philadelphie, c'était aussi l'un des combats forts de Mumia, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les brutalités policières. Hein. Cette police, elle reste l'une des plus corrompues de ce pays, et que pour la communauté afro-américaine, mais plus généralement pour les gens qui vivent à Philadelphie, sont des policiers qui effectivement pas des policiers qui s'occupent de la sécurité de la population, qui assurent la sécurité de la population, mais qui n'a fait que des opérations de police de caractère extrêmement grave, puisque les armes servent à longueur de journée, de semaines, de mois et d'années, et rien n'est encore réglé dans cette ville de ce point de vue.
Et on rappelle que Philadelphie, ça avait été un des épicentres du mouvement Black Lives Matter qui avait éclaté là, ben, l'année dernière. Et notamment, il y avait eu de nombreuses nuits d'émeutes en octobre 2020, après la mort de Walter Wallace Jr., qui avait été abattu en pleine rue par la police. Donc on voit que voilà, cette question à la fois des violences policières et du racisme systémique contre les personnes afro-américaines n'est toujours pas réglé, et que le combat de Mumia Abou-Jamal reste particulièrement d'actualité.
Tout à fait. Pour poursuivre, en fait, très jeune, à 15 ans, il était le porte-parole des Black Panthers à Philadelphie. Hein, donc les militants Black Panthers avaient confié à Mumia cette tâche, et c'est d'ailleurs ce qui a sans doute engagé Mumia à poursuivre des études, puisque malgré le milieu très pauvre dont il était issu, il a poursuivi des études de journaliste après avoir eu son baccalauréat, Il est devenu journaliste, journaliste de radio, et il s'est consacré au combat dont on parlait à l'instant, tout de suite. Ce qui fait que son métier, en tout cas, ne lui permettait pas économiquement d'être un journaliste normal et surtout de pouvoir en vivre économiquement. Et c'est ce qui l'a conduit, d'une part, à faire ce métier de journaliste, dont il a mis sa profession et son professionnalisme donc à la disposition des plus discriminés, de l'antiracisme, contre toutes les formes de répression. Évidemment, ça n'a pas été facile d'exercer son métier dans ces conditions-là. Mais il a tenu le coup, et même si économiquement il ne pouvait pas en vivre, donc c'est la raison pour laquelle il exerçait un autre métier parallèlement, qui était le métier de chauffeur de taxi. Précisément, là, on en arrive aux événements du 9 décembre 1981. C'est le jour où Mounia, ayant déposé, arrêté son taxi dans une grande artère de Philadelphie, il a libéré son client, et il a vu effectivement que des policiers intervenaient avec deux hommes qui levaient les bras, acculés à leur voiture. C'était donc une arrestation et en tout cas au moins un contrôle. Des personnes qui étaient sorties de leur véhicule avec plusieurs véhicules de police autour. Mounia a cru apercevoir son frère. C'est tout à fait le hasard. Il a donc arrêté son taxi. Il a traversé cette. Il est arrivé à hauteur du contrôle d'identité qu'opéraient les policiers. Et là, confirmation, c'était bien son frère qui était arrêté avec un de ses amis. Et là, une fusillade a éclaté. Donc tout ça s'est passé en quelques minutes. Une fusillade a éclaté, un policier a été tué et Mounia, lui, a été grièvement blessé. Donc on s'est retrouvé avec un homme assassiné et la police, finalement, les choses se sont très vite, ont pris une dimension catastrophique assez rapidement pour Mounia. Il baignait lui aussi dans le sang. Il était dans un début de coma. Il a été embarqué par la police. Il est resté quelques heures au commissariat, mais quand ils ont vu que ça prenait des proportions, les policiers, où il n'était pas question de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, interroger Mounia dans l'état où il était, ils l'ont conduit à l'hôpital. Et là ensuite, heureusement, les autorités, les médecins qui l'ont accueilli, l'ont tout de suite mis sous la protection de la situation dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire un homme qui ne pouvait pas être interrogé. Donc les policiers n'ont rien pu faire. Là, il s'est trouvé, si je puis dire, un peu à l'abri. S'il n'avait pas été mis à l'abri et sous le contrôle de médecins sérieux, qui ont fait d'abord leur travail de médecin, sans doute on n'aurait jamais parlé du cas Mounia ensuite. Ça aurait été resté un événement banal à Philadelphie. Finalement, il est resté plusieurs mois à l'hôpital, hein, plusieurs mois à l'hôpital. Et ensuite, ça c'était donc en décembre 81, son procès s'est engagé pratiquement 6 mois après, en juin 1982, et ce procès, au terme d'un procès expéditif, hors norme du point de vue d'aucun respect, même des propres règles américaines, qu'il s'agisse de la Constitution de Pennsylvanie, des règles de loi en Pennsylvanie, que des règles fédérales et de la Constitution américaine, c'est un procès expéditif, raciste, un procès accusatoire, sans que la possibilité Mounia ait de se défendre. Tout le peu de témoins qu'il y avait ont été récusés, et notamment lors de la constitution, ça illustre les conditions même d'organisation du procès, lorsque le jury, puisqu'il s'agissait d'un procès d'assises, lorsque la constitution du jury s'est faite, pratiquement la quasi-totalité des Afro-Américains qui étaient proposés par la défense de Mounia ont été récusés, donc ça a été un procès à charge, et qui a conduit en quelques jours à sa condamnation à mort, puisqu'il était accusé d'avoir commis le crime, d'avoir tué le policier qui avait assassiné. Des conditions tout à fait anormales, tellement anormales que la Commission des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International USA et le Parlement européen, quelques années après, ont conclu effectivement à ce que ce procès soit tout à fait condamné par ces références internationales d'intervenants quand ils ont regardé un petit peu dans quelles conditions il avait été condamné. Et donc, pendant 40 ans, pratiquement, il y a eu des recours. Et autant au plan de l'État de Pennsylvanie, selon les règles et les lois de Pennsylvanie, et selon les règles fédérales, c'est remonté plusieurs fois jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, et Mumia n'a jamais pu obtenir la révision de son procès. Hein, la révision de son procès. Et effectivement, au bout de 40 ans, et grâce à la mobilisation internationale, d'abord Mumia est toujours en vie, hein, il est sorti du couloir d'abord, Mumia, les recours ont continué de se faire, mais depuis qu'il était sorti du coin de la mort, on pensait qu'il y avait relativement peu d'espoir au plan judiciaire. Or, un événement s'est produit autour des années 2015-2016, c'est que grâce à une nouvelle jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, la défense de Mumia a pu réengager des procédures qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, Mumia a obtenu il y a 2 ans la possibilité d'aller en appel de sa condamnation en 1982. Donc, on remonte, si je puis dire, l'échelle du temps, on remonte à sa condamnation à mort. Là. Il a obtenu, j'en parle dans les détails, mais parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu 3 ans d'années de procédure, mais c'est la jurisprudence suivante qui lui a permis de réengager le débat, de faire réengager le débat et qu'elle soit prise en compte, et qu'enfin, un juge de Pennsylvanie qui a sérieusement fait son travail, il a été salué d'ailleurs par Mumia lui-même, qui a fait son travail, a donné la possibilité à Mumia d'aller à un recours pour tenter d'obtenir, donc on serait à l'avant-dernière marche. Si ça fonctionne, ce recours en appel, nous serions sur l'avant-dernière marche de la révision du procès. Hein. Donc c'est un événement considérable qui s'est produit en 2019 sur la base de la jurisprudence suivante, c'est que Mumia, et ça a été défendu par ses avocats pendant de très nombreuses années, mais ça n'avait jamais été pris en cause compte tenu de ce qu'était la jurisprudence à l'époque. C'est qu'un même magistrat, par exemple, un juge, un procureur, ne peut pas être présent, en tout cas, dans les différents recours d'un condamné. Par exemple, dans la jurisprudence qu'on connaît ici en France, on ne peut pas se retrouver être condamné, quelle que soit la peine, en première instance, et se retrouver en appel et en recours aux différents étages, aux différents étages de la hiérarchie judiciaire, avec les mêmes magistrats et avec les mêmes gens qui, évidemment, confirmeraient, c'est ce qui s'est produit aux États-Unis pour Mumia et beaucoup d'autres prisonniers. Et un prisonnier avait effectivement contesté cette jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, qui a vécu pendant très très longtemps, donc jusqu'en 2015, hein, et là, la jurisprudence a été changée. La Cour suprême a mis un terme, effectivement, à ces procédures. Vous voyez qu'en droit, ça a permis aussi qu'un prisonnier fasse valoir, ensuite, donc Mumia a pu s'engouffrer dans cette nouvelle procédure, et d'autres condamnés d'ailleurs, hein, et d'autres condamnés, pour tenter d'obtenir la révision de leur procès. Puisque le cas de Mumia, c'est ça, hein, et aujourd'hui, la grande bataille, c'est de faire reconnaître que les procureurs de Philadelphie et les différents juges, mais il y en a surtout eu un procureur, plusieurs procureurs et un juge qui effectivement ont tout fait pour être présents effectivement aux différents strates des recours qui ont eu lieu pendant 40 ans pratiquement de procédure et qui n'avaient jamais abouti jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, il y a une petite lucarne qui s'est ouverte et on a un petit peu d'espoir de ce point de vue. Mais encore une fois, je renvoie à la situation de santé de Mumia aujourd'hui. C'est plus en question de sa situation judiciaire qu'il doit effectivement quitter la prison. La santé d'abord, et c'est ça qui doit conduire les autorités à mettre un terme à situation insupportable depuis 40 ans d'un point de vue judiciaire, intolérable encore aujourd'hui du point de vue du comportement, d'un comportement où ils usent de manière déguisée de la peine de mort, et ils abusent, ils vont même jusqu'à abuser de la torture. Hein. Je rappelle la référence d'un récent, hein, mais ça avait déjà été le cas lorsque Mumia était atteint il y a 4 ou 5 ans lorsqu'il avait été hospitalisé. On l'attache à son lit. Des fois qu'il quitte l'hôpital avec son lit. C'est déjà ridicule, mais c'est absolument intolérable. Hein. C'est absolument intolérable. Mmh. Ça relève de la torture. Et ça, c'est insupportable.
Et donc, on rappelle, Jackie Orto, que depuis le collectif français de soutien à Mumia Abou-Jamal, vous demandez donc sa libération, d'autant plus depuis les récentes annonces quant à son état de santé qui s'est fortement détérioré. Vous invitez à interpeller les autorités politiques et pénitentiaires notamment de Philadelphie. On peut retrouver sur votre site internet mumiaaboujamal.com donc une proposition, un format de lettre à envoyer donc à ces autorités et il y aura donc peut-être en fonction des restrictions sanitaires des rassemblements le 7 avril dans peut-être dans différentes villes.
Oui, tout à fait. On appelle, à l'image de ce qu'est le collectif français de soutien Bumia, il y a notamment toutes les grandes organisations qui sont membres de notre collectif et qui ont des représentations et des militants dans toutes les grandes métropoles, notamment. Hein, et je pense donc à Bordeaux, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon, c'est le cas dans beaucoup d'autres villes où effectivement il pourrait y avoir, notamment là et dans ces villes, la plupart de ces villes, il y a des consulats américains. Il y aurait des possibilités d'organiser des rassemblements. Bon, on invite, hein, évidemment, tous ceux qui le peuvent et qui vous écoutent là, à frapper à la porte de ces organisations pour leur proposer d'organiser des rassemblements.
D'accord.
Ça serait un retour à ce qui s'est déjà fait dans le passé dans ces villes et ça serait une bonne contribution, je crois. Ça renforcerait la mobilisation et ça permettrait de redynamiser la mobilisation française qui a toujours été très importante, hein, du point de vue international. Et qui a conduit, y compris, à aider beaucoup Mounia, en collectant ici notamment de l'argent, hein, pour sa défense. Ça coûte très cher. Là, je rappelle que la défense de Mounia, depuis 1982, elle a coûté plus de 1 million de dollars, hein, 1 million de dollars, et que la contribution française sur toute cette période jusqu'à ce jour, elle a été pratiquement à hauteur d'un tiers de cette dépense considérable, et que Mounia aujourd'hui n'est toujours pas sorti d'affaire. Hein, voilà.
Donc on suivra ça de très près le 7 avril, éventuellement les différents rassemblements dans plusieurs villes françaises en soutien donc à Mounia Abou-Jamal, on le rappelle, ce militant des Black Panthers, également journaliste accusé en 1982 du meurtre d'un policier blanc et qui est toujours derrière les barreaux depuis près de 39 ans et dont l'état de santé s'aggrave très fortement sous les yeux des autorités pénitentiaires qui souhaite le laisser voilà dépérir dans des conditions absolument inhumaines. Merci à vous, Jackie Orto du collectif français de soutien à Mounia Abou-Jamal.
Merci à vous.
Et
Et Frimoumia.
Frimoumia, exactement. Merci beaucoup.